Salut, c'est Lorraine. Mes amis podcasteuses et moi, on a un message pour vous.
Je suis Charlotte.
Je suis
Faustine. Je vais marcher le 24 novembre.
Je suis Élodie.
Je m'appelle Grace. Je marcherai le 24 novembre.
Pour crier la
pour
rage.
Pour toutes les femmes.
Je suis Claire.
Et contre toutes les violences qui leur sont faites.
Je vais marcher le 24 novembre.
Derrière celles pour qui ces violences sont une expérience inséparable du racisme.
Je m'appelle Victoire Thuel.
Du validisme.
Je vais marcher le
24
novembre.
De l'homophobie.
Novembre,
de la précarité.
Une meilleure visibilité des femmes.
Je
dans
m'appelle
la société,
Clémentine Gallo.
Et notamment des femmes homosexuelles.
Aux côtés de femmes puissantes.
Je suis Julia.
Déterminées.
Je m'appelle Charlotte.
Et le 24 novembre,
je marcherai dans la rue pour demander justice
pour toutes les femmes victimes de violences.
Lutter contre toutes les formes de violences faites à toutes les femmes.
En particulier,
je suis Julia,
celles qui touchent les femmes les plus précaires.
Le 24 novembre,
que enfin,
parce que les violences sexistes et sexuelles envers les femmes,
et sexuelles.
Je n'en veux plus.
Je suis Mélissa.
Pour que cesse l'impunité des trop nombreux agresseurs.
Je vais marcher le 24 novembre pour soutenir toutes les femmes victimes de violences.
Violeurs, harceleurs.
Je m'appelle Géraldine et je vais marcher le 24 novembre
pour dire notre ras-le-bol et notre colère face aux insultes, aux menaces, au harcèlement de rue, au harcèlement au travail, aux violences conjugales, à la culture du viol, aux meurtres, aux viols, aux mariages forcés, aux mutilations sexuelles, aux violences économiques et toutes les violences qui touchent les femmes parce qu'elles sont femmes.
Je vais marcher le 24 novembre pour une révolution féministe.
Moi aussi, je marcherai contre les violences sexistes le 24 novembre, avec vous, j'espère. Il y a des marches dans toute la France. Pour plus d'informations, suivez le hashtag « Nous toutes ».
Vous écoutez un QDM de poche, un mini-épisode sur un objet culturel à la sauce Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel. Accompagné de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpino.
C'est parti. Cette semaine, on est avec Anne-Laure.
Bonjour.
Journaliste spécialiste des questions LGBT. On va parler de l'odieuse et ignoble série American Horror Story qui est diffusée sur la chaîne FX pour sa saison 8 aux États-Unis et sur Netflix en France pour sa saison 7. Donc toi, Anne-Laure, comme moi, tu es fan de films d'horreur depuis longtemps.
Ah oui, les films d'horreur, c'est ma passion totale.
C'est la vie.
Oui, j'ai regardé L'Exorciste quand j'avais 12 ans et puis tout a suivi ensuite.
C'est bien une très bonne formation.
Exactement.
Alors, fais-nous un petit topo sur American Horror Story. De quoi s'agit-il ?
Bah, ce qui est ouf avec American Horror Story, c'est que c'est déjà c'est une série et chaque saison est indépendante les unes des autres et explore une nouvelle facette de l'esthétique du film d'horreur et aussi, plus généralement, du mécanisme de la peur. Qu'est-ce qui la nourrit ? Qu'est-ce qui la construit ? À la fois à l'intérieur de l'intrigue et aussi chez nous. La peur, on peut la ressentir en regardant cette série en mode jump scare, donc c'est-à-dire, paf, il y a un fantôme dans le miroir. Mais aussi le malaise total, par exemple, d'une intrigue sur...
Sur un sujet particulier, touchy.
Sur un sujet touchy. La première saison, elle explore le thème de la maison hantée.
Je me dois de vous informer de ce qui leur est arrivé et comment ça s'est passé.
Oh non! Vous n'allez pas nous dire qu'ils sont morts ici?
Si, ils sont morts dans la maison.
Donc c'est passionnant. La deuxième, c'est une sorte de bougli-bougla entre l'hôpital psychiatrique, les aliens.
Ok.
L'église catholique acheta cet endroit en 62 et le transforma en un sanatorium pour les criminels fous.
Ensuite, c'est les sorcières.
Ouais.
Donc, on revient sur Salem et sur toutes les exactions commises contre ces femmes-là.
So, apparently I'm a witch.
Ensuite, c'est le cirque et les clowns. Moi, perso, ça me fait flipper.
Ouais, ouais.
Voilà.
De base.
Freaks.
Et après, là, c'est encore plus intéressant puisqu'il y a donc l'hôtel hanté. Et ensuite...
Avec Lady Gaga,
qui joue un vampire. C'est formidable.
We have two selves. The one the world needs us to be, compliant, and the shadow.
Et ensuite, c'est les questions un peu plus politiques. Donc, la saison 6, c'est sur la télé-réalité. Et ce que ça peut provoquer, en fait, chez le spectateur et la spectatrice, c'est-à-dire on a envie de voir du sang, on a envie de voir du meurtre. Mmh. Et donc, c'est intéressant ce que ça veut dire.
Comme dans American Horror Story.
Exactement. Et ensuite, c'est la saison 7, c'est sur les fake news, l'élection de Donald Trump. C'est un film d'horreur. Le parti pris, c'est de dire que l'élection de Trump est un film d'horreur, de ce que ça veut dire de la société américaine aujourd'hui.
It is now official. Donald Trump is the next president of the United States.
Et là, c'est la toute dernière saison et ça explore le thème de l'apocalypse, ce qui est ma passion aussi.
Ok.
In order to save the world, we will have to watch it burn.
Donc on va parler un tout petit peu du showrunner, donc le cerveau déréglé qui produit cette série. Donc c'est Ryan Murphy, la personne la plus gaie sans doute qui existe à l'heure actuelle.
C'est clair.
On lui doit notamment d'autres séries comme Glee, une série sur O.J. Simpson et une autre série sur Gianni Versace. Et il va bientôt en faire une sur l'ouragan Katrina. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement prolifique qui mène beaucoup de projets de front, mais qui reste quand même très complexé par rapport au reste de l'industrie parce qu'elle l'a longtemps snobé. Donc il a vraiment un peu des complexes d'infériorité. Et en fait, il a une fondation qui s'appelle HALF, à travers laquelle il a pris des engagements pour une meilleure représentation de la diversité à la télé. Et donc sa maison de production embauche aujourd'hui 50% de femmes, de personnes racisées ou LGBT. Et par ailleurs, lui-même est très fidèle à ses acteurs et actrices, comme Sarah Paulson, qui est bi et qui est out, et qui est un personnage récurrent de la série. Donc lui, c'est vrai qu'il a un style très reconnaissable, qu'on l'aime ou pas. Donc sa marque de fabrique, c'est d'être extrêmement baroque, voire grand guignol, voire camp, c'est-à-dire un mélange de pop un peu gay. C'est vrai que personnellement, ça m'a toujours un peu rebutée dans ces séries, même si je sais qu'il faut les regarder au troisième degré avec beaucoup d'ironie. Mais cette surenchère et l'arbitraire des scénarios, je trouve ça parfois un peu vain, même si ça a sans doute une fonction vraiment cathartique pour le spectateur. Voilà, en tout cas, pour moi, la forme fait souvent écran au fond avec lequel je suis d'accord. Mais voilà, tu peux te faire l'avocate du diable, Anne-Laure. Raconte-nous, toi, ce que tu en penses.
Non, je comprends que ça peut être rebutant, le petit côté Baz Luhrmann de la série. Mais moi, ce que j'adore aussi dans les choix de Ryan Murphy, c'est que, tout simplement, tout le monde est représenté, en fait.
Ce qui est quand même assez rare.
Ce qui est hyper rare. Donc, il y a à la fois des personnes non blanches, mais aussi des personnes handicapées. Des personnes grosses, des personnes non hétéros, non binaires, beaucoup de personnes LGBT et de personnages LGBT+. On combat l'hypervirilité, on combat l'hyperféminisation. Il y a des catchphrases assez folles dans chaque saison, en fait. Et puis, puisque c'est un sujet qui nous intéresse, il y a beaucoup de références hyperféministes. Par exemple, dans la saison 3, donc, qui explore le thème des sorcières, on voit toute cette communauté de femmes qui luttent pour exister. Il y a beaucoup de ponts qui sont faits entre le principe des sorcières, Mona Chollet serait d'accord de l'entendre, et la résistance féministe. Les filles doivent apprendre à combattre. Quand les witches ne combattent pas, nous brûlons. Dans la saison 2 aussi, on suit les aventures d'une journaliste téméraire qui nous rappelle vraiment Nellie Bly. Donc Nellie Bly, qui était une journaliste qui a inventé le journalisme gonzo à l'époque.
Bien avant Hunter Thompson et tous les hommes qui se sont appropriés le concept sur le tard.
Exactement. Elle avait exploré un hôpital psychiatrique en se faisant interner et elle avait fait évoluer la loi sur les hôpitaux psychiatriques à l'époque. Donc c'est le personnage central de la saison 2.
Et dans la saison 7, on a aussi Valérie Solanas, donc cette activiste et écrivaine qui avait tiré sur Andy Warhol et qui est jouée par Lena Dunham, la créatrice de Girls. Down with the patriarchy.
Suck my dick, Warhol. Oui, c'est un régal de la voir dans ce rôle-là. C'est vraiment très très chouette de voir toutes ces références se mêler les unes aux autres. Bon. Moi, j'ai un petit bémol à les avoir revues au moins 3 fois, puisque, encore une fois, je suis fan de films d'horreur. Mais peut-être que je suis parano. Dans les 2 premières saisons, on parle d'avortement, mais en diabolisant la femme qui avorte ou le médecin qui pratique l'avortement. Donc, je ne sais pas si c'est parce que des évangélistes ont donné de l'argent à Showtime, puisque ça arrive quand même régulièrement que les évangélistes financent le cinéma et la télévision aux États-Unis. Mais je pense qu'il faudrait faire une grande enquête pour déterminer le vrai du faux, mais c'est vrai que c'est un petit bémol qui est assez important quand même.
Ouais, se servir de l'avortement comme d'un motif dans le genre horrifique, c'est vrai que
c'est problématique.
Ça peut poser problème.
Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a des acteurs ou des personnages récurrents que tu préfères ?
Alors, c'est compliqué parce que c'est le meilleur casting de la Terre, clairement.
Tout simplement.
Bon, il y avait Lady Gaga, on en a déjà parlé. Moi, j'ai une passion pour Katie Bates, sans doute parce que je l'ai vue dans Titanic.
Et dans Misery.
Et dans Misery, où elle était absolument flippante. Is this what you're looking for? Donc là, dans beaucoup de saisons, elle joue des rôles vraiment très forts. Elle est absolument glaçante. C'est, je trouve, une des meilleures actrices à l'heure actuelle. Sinon, il y a Gabour Nassidib, qu'on avait vu dans Precious, donc, qui joue là aussi des rôles super forts. Par exemple, dans la saison 3, elle joue une sorcière qui doit faire le choix soit d'appartenir à l'école de sorcières, soit d'aller du côté de Marie Laveau, une prêtresse vaudou très connue à la Nouvelle-Orléans. Justement, elle doit choisir entre la lutte féministe et la lutte noire. Et c'est hyper bien exploité aussi dans cette saison-là.
You just wanted love. And that makes you a beast.
C'est vrai qu'il a, Ryan Murphy a une manière de magnifier des acteurs un peu délaissés, un peu dans les marges de l'industrie, pour leur donner vraiment des rôles en majesté.
Exactement. Et il y a aussi Jamie Brewer, donc qui est une actrice qui est trisomique et qui intervient dans beaucoup de saisons aussi. Elle est extraordinaire parce qu'on ne parle pas de sa trisomie. À aucun moment on ne mentionne ce handicap. C'est pas le sujet de l'intrigue. Donc c'est encore une fois génial ce que cette série propose.
I want to be a pretty girl for Halloween.
You want what?
Make me a pretty girl. Like you.
Et donc les trois dernières saisons, donc la première sur la télé-réalité, ensuite l'élection de Trump et aujourd'hui sur l'apocalypse, nous fait peur parce qu'elle semble hyper quotidienne. Oui, en effet, moi quand je regarde l'amour est dans le pré, peut-être pas, mais la télé-réalité, j'ai envie...
Tu regardes l'amour est dans le pré.
Ouais, bon, c'est un coming out. Quand je regarde de la télé-réalité, j'ai envie de voir des choses et cette envie-là, elle est quasiment... elle peut aller très loin en fait, et c'est exactement ce dont parle cette saison-là. C'est la saison qui s'appelle Roanoke, donc ça c'est super. Et donc là, la dernière saison explore l'ère post-apocalyptique, donc où l'humanité est repensée, augmentée. Et en fait là, en plus, elle est repensée par le diable. Donc est-ce que fondamentalement l'humain est bon ou mauvais ? C'est le moment de se poser la question quand tout le monde est mort et qu'il n'en reste plus beaucoup. Bref, bon, peut-être que je suis pessimiste, mais j'ai l'impression que c'est logique qu'elle arrive après la saison sur Trump. Bon, en tout cas, au moment où on parle, il y a une guerre qui se prépare, une guerre des sexes entre les sorcières femmes et les sorciers hommes dans cette dernière saison. Donc, on se réjouit de voir ça.
Et alors, ce qui est intéressant aussi dans la saison 7 qui est diffusée sur Netflix, c'est qu'il y a un personnage de tueur masculin, voire masculiniste, qui nous rappelle vraiment l'actualité.
Oui, c'est Kai. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un masculiniste et aussi un amateur de fake news qui brigue en fait un mandat politique.
Fuck you, world! USA!
Donc c'est un sujet extrêmement actuel. Elle a été diffusée peu de temps après l'attaque du Pulp, donc vraiment.
C'était le club en Floride.
Voilà, le club d'Orlando qui avait été l'objet d'une attaque terroriste. Donc cette saison est assez folle puisqu'elle mêle plusieurs sujets. Donc les masculinistes qui luttent par exemple contre l'accès à l'avortement. Donc là, dans cette saison, par exemple, un argument politique, c'est d'empêcher les femmes d'avorter au troisième cycle de grossesse. Il y a en plus un focus sur les fake news qui est absolument passionnant. Bon, c'est peut-être parce qu'on est journaliste, hein, mais comment les fake news peuvent permettre aux personnes d'atteindre en fait, une élection politique, de la gagner.
Bon, en tout cas, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faut regarder cette série ou pas. Mais chers auditeurs et auditrices, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Salut Anne-Laure.
Salut Clémentine.
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Clémentine Gallou,
co-animée par Anne-Laure Pinault,
avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Charles de Cilia, au montage et mixage Laurie Galligani, coordination Laura Cuissard.